au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Faisons le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions. Ô Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens, Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père du Fils et du Saint-Esprit, merci soit-il. Bon, on est presque là. La fin de la prima pars. Lors de la première partie de la somme théologique de saint Thomas, qui est la partie la plus compliquée, après c'est plus facile. Donc je voudrais, à la page 28 et 29 du polycopié, vous avez les pages 28 et 29, le 29 aussi qui est là. Donc sur les polycopiés, page 28 et 29. Alors, il y a des idées de saint Thomas qui sont extrêmement modernes, dans mon sens du terme. C'est-à-dire qu'elles sont parfaitement explicables et adaptables dans le monde moderne aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que va faire saint Thomas d'Aquin? Saint Thomas d'Aquin va essayer de montrer par quels moyens et dans quelles circonstances l'homme est vraiment digne. Est-il vraiment digne? Quelle est la véritable dignité de l'homme? Ça, c'est très important d'avoir les idées claires là-dessus, parce que beaucoup de même de fidèles, parfois, ont les idées complètement biscornues sur le sujet. Donc, la dignité de l'homme vient de la relation de l'homme à Dieu. Donc, plus la relation de l'homme à Dieu est importante, plus la dignité de l'homme va augmenter. Moins la relation de l'homme à Dieu est importante, plus la dignité de l'homme va diminuer. Donc il y a deux dignités de l'homme. Il y a une dignité qui est une dignité naturelle, dans le sens que tout homme, dans sa nature étant créé par Dieu, il y a quelque chose de digne dans toute créature de Dieu. Parce que Dieu, toutes les créatures de Dieu sont en soi bonnes. Rappelez-vous, les sept jours de la création, au livre de la Genèse, après chaque création, qu'est-ce que dit notre Seigneur? Qu'est-ce que dit Dieu? Dieu créa ceci, Dieu créa telle chose, et Dieu vit que cela était bon. Bon, donc ça c'est bon. Je vous donne les feuilles, madame.
Excusez-moi.
Je vous en prie.
Les femmes de l'Antisémite, c'est très rare.
Il y a un nombre rouge pour venir ici. Hein.
Merci. Il y a Olivier en bas, donc ils vont pas venir.
On va les garder. Voilà. Donc, la dignité de l'homme dépend de cette relation avec Dieu. Donc, il y a une relation, encore une fois, une dignité d'homme naturelle, en sens que l'homme est créé à l'image de Dieu par le fait qu'il a en lui une âme. J'ai déjà expliqué ça en large et en travers la dernière fois. Donc c'est l'âme, l'existence de l'âme dans l'homme qui donne sa dignité à l'homme. Bon. Là, tous les hommes ayant tous une âme, tous les hommes ont tous la même dignité. Donc la dignité de l'homme est identique pour tous les hommes sur le plan naturel. Dans le sens que tous les hommes sont égaux de ce côté-là. Tous les hommes sont créés par Dieu, tous les hommes ont un corps et une âme, et tous les hommes ont une âme qui est créée à l'image de Dieu. Bon, ça c'est valable pour tout le monde, même pour les non-catholiques. Rappelez-vous la définition de l'âme, substance spirituelle, douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le posséder parce qu'elle est immortelle. Bon. Se rajoute à cette dignité naturelle, j'ai dans l'ordre naturel, une dignité dans l'ordre surnaturel. Bon. Donc le deuxième degré de dignité de l'homme, qui est une dignité qui n'est pas cette fois-ci d'ordre naturel mais d'ordre surnaturel, cette deuxième dignité n'existe pas pour tous les hommes. Immédiatement, on voit une différence au niveau des hommes. Non seulement les hommes sont tous différents dans ce domaine d'ordre surnaturel, mais même parmi ceux qui ont l'état de grâce, il y a encore des différences. Parce que le degré d'état de grâce diffère pour chacun d'entre nous, Parce que l'état de grâce, le degré d'état de grâce que nous avons dépend du degré de charité que nous avons. C'est évident que l'état de grâce, si vous voulez, dans la charité qui habitait l'âme de notre Seigneur Jésus-Marie, largement supérieure à la charité qui peut exister dans une âme d'un enfant de bon Dieu, et qui vit dans l'état de grâce. D'accord? Il y a quelque chose de supplémentaire dans notre Seigneur Jésus-Marie, c'est évident. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'homme a sa dignité simplement, sa véritable dignité, par son rapport avec Dieu. Donc en poussant l'homme loin de Dieu, c'est ce que fait par exemple, le monde moderne, en poussant l'homme loin de Dieu, qu'est-ce que fait le monde? Le monde moderne, en poussant l'homme loin de Dieu, va détruire dans l'homme sa véritable dignité, donc sa seule richesse. Donc là, c'est le deuxième étage. Troisième étage, c'est quoi? Troisième étage de la dignité, c'est une dignité encore supérieure. Cette fois-ci, on n'est plus dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de la nature, éclairé par la grâce, illuminé par la grâce, on est dans l'ordre de la gloire. Donc on passe au degré au-dessus. Et même encore une fois, on voit bien que dans l'ordre de la gloire, il y a inégalité parmi les gens. Oui, donc il y a trois degrés. La nature, la grâce, la gloire. Au niveau de la nature, il y a égalité. En sens que tous les hommes ont une âme. Tous sont composés d'un accord et d'une âme, tous ont été créés par Dieu et égalité entre les hommes. Dès qu'on passe au niveau surnaturel, on parle de manque d'inégalité, de différence entre les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont l'état de grâce, il y en a qui l'ont pas. Donc il y a des gens qui ont une dignité supplémentaire parce qu'ils sont enfants de Dieu, il y en a qui ne le sont pas. Et il y en a qui ont, parmi les hommes qui sont à l'état de grâce, encore une fois, il y a des gens qui ont plus ou moins de grâce, plus ou moins d'amour du bon Dieu, plus ou moins d'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, au niveau supérieur, au ciel, pour les élus du ciel, là encore une fois, il y a des différences constantes. Il y a différents degrés, différentes maisons, différentes demeures dans la maison du Père, il y a Sainte Écriture, ça montre bien qu'il y a des différences aussi au niveau de la gloire. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce que dans le monde moderne, ils font tout pour éliminer le bon Dieu. En fin de compte, ils enlèvent de l'homme la seule richesse qu'il avait. Il ne reste plus rien. J'ai un exemple qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais au Mexique. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup tourné ma bosse au Mexique, un pays que je connais bien. Et je suis dans les pays très pauvres, j'avais été frappé par les régions très pauvres du Mexique. Le Mexique est un pays pauvre. Mais alors que c'est un pays qui a une richesse incroyable en minéral, en tas de choses, mais à cause de la corruption du gouvernement, corruption maçonnique du gouvernement, c'est un pays en fait très pauvre au niveau des gens du peuple. Eh bien, j'avais beaucoup frappé dans des villages très éloignés de tout, des villages tout simples, il y avait encore des églises magnifiques. On avait parfois des rétables, par exemple, taillés dans la masse, avec des dorures à leur fin qui étaient extraordinaires. Eh bien, je me rappelle ce que me disaient quand on parlait un petit peu avec les paysans locaux, quoi, donc il y avait rien, une pauvreté, vraiment, ils étaient pauvres comme les blés. Hein. Eh bien, ces rétables, c'était leur richesse. C'était mon église. Quand ils parlaient de l'église, c'était pas l'église du village voisin, c'était mon église. C'est une richesse qui nous appartient à nous tous dans le village. Lorsque le modernisme est arrivé, dans ces zones-là, c'est arrivé autour des années 70, 80, ils ont enlevé tous ces rétables. Ils ont fait ça. On passait ça par une table de cuisine. En faisant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé à ces paysans qui n'avaient rien d'autre que cette richesse qui venait justement de cette beauté qui venait des anciens. Ils ont enlevé cette richesse. Et donc, le paysan s'est retrouvé sans rien du tout. Et donc, on nous parle à longueur de journée de dignité de l'homme, de retour à la dignité de l'homme. En fait, ils ont enlevé aux paysans mexicains la seule richesse qu'ils avaient. Et ça c'est terrible, mais je pense que c'est un exemple à bien comprendre. Alors, Saint Thomas va parler de cela avec sa science théologique. Donc, c'est la question 93, article 4 de la prima part, donc la première partie de la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin. L'homme, l'image de Dieu est-elle en tout homme? Bon. Alors, dès le début de sa façon d'expliquer, saint Thomas va mettre les choses en place. Par le péché, l'homme perd sa ressemblance avec Dieu. Donc, cette ressemblance avec Dieu est détruite par le péché. Donc, immédiatement, ça provoque des différences au niveau des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a les hommes qui sont des pécheurs, les hommes qui pêchent moins, les hommes qui sont en état de grâce, les hommes qui ne le sont pas. Donc, ceux qui sont en état de grâce ont une ressemblance avec le bon Dieu, que n'ont pas ceux qui n'ont pas l'état de grâce. Encore une fois, ça c'est très important à défendre aujourd'hui. Vous voyez, faire très attention à ne pas rentrer dans le système moderniste qui consiste à dire que tous les hommes sont égaux au niveau de la grâce. Donc comment se démontre ça? Ça sont les grandes idées. C'est les grandes idées de ce sont toujours les idées d'ailleurs de Benoît XVI, de Jean-Paul II aussi, qui sont bien entendu reprises encore plus par Bergoglio. Eh bien, c'est tout simple. Comment est-ce qu'ils détruisent la beauté de la grâce? La grâce est quelque chose qui se surajoute à la nature. D'accord? La grâce est détruite par la nature, mais l'élève. Donc celui qui a la grâce a une dignité supplémentaire à celui qui n'en a pas. L'Église a toujours traduit ça d'une façon toute simple dans le catéchisme. Les enfants de Dieu ont le caractère d'enfants de Dieu par le baptême. Donc il y a deux sortes d'hommes sur la terre, ceux qui sont baptisés, ceux qui ne sont pas. Ceux qui sont baptisés ont la grâce sanctifiante, au moins au moment du baptême. Ceux qui ne sont pas baptisés n'ont pas la grâce sanctifiante. Donc ceux qui ont la grâce sanctifiante sont des enfants de Dieu, puis effectivement ceux qui ont le baptême sont des enfants de Dieu. Notez que même si un baptisé perd l'état de grâce par le péché, il reste enfant de Dieu, attention. Ce caractère d'enfant de Dieu, étant un caractère, ne peut pas être ôté. N'oubliez pas qu'il y a trois sacrements qui ont un caractère. L'ordre, le baptême et la confirmation. Donc le caractère d'enfant de Dieu ne peut pas être détruit. C'est-à-dire que ce caractère, cette dignité d'enfant de Dieu, personne ne peut l'ôter à un individu. Alors attention, c'est évident qu'il va être jugé en fonction de cela. Donc la dignité d'enfant de Dieu ne peut pas être perdue. Donc ça fait déjà un niveau de, si vous voulez, un degré de nature supérieure, un degré de grâce supérieure par le baptême. Alors, là, on voit l'hypocrisie de Bergoglio qui va dire que tous les hommes sont enfants de Dieu, donc il détruit tout simplement le baptême. Alors, comment les révolutionnaires tels que Benoît XVI ou Jean-Paul II se sont pris pour détruire justement toutes les fondations du catéchisme sur la grâce, ils ont tout simplement ressorti une petite phrase qui vient de toute l'équipe de Hans Küng, Schilbeck, tous ces gens-là, Rahner, etc., qui ont fait des dégâts autour des années 60-70, début 80. Bon. Et ils disent, la grâce est naturelle à l'homme. C'est la phrase. Notez que pratiquement tous les modernistes croient ça. Vous demandez à n'importe quel prêtre moderne, qui est dans l'église de Vatican II, est-ce que la grâce est naturelle à l'homme? Ils vont dire oui. Je pense pratiquement tous. Donc, c'est ce qu'on appelle la naturalisation de l'état de grâce. En naturalisant l'état de grâce, on donne à l'homme une propriété naturelle, à savoir l'union à Dieu par la grâce sanctifiante. Donc, la grâce sanctifiante à tout homme. Puisque c'est une propriété de la nature, est-ce qu'on peut perdre une propriété de sa nature? Non. Donc, tous les hommes ont la grâce. Or, la grâce est nécessaire au salut. Donc, tous les hommes se sauvent. Et ça, c'est la théologie de Jean-Paul II, c'est la théologie de Benoît XVI, c'est la théologie de François aujourd'hui. Que la grâce est devenue quelque chose de naturel à l'homme. Donc, tous les hommes sont sauvés. Et Dieu est obligé de prendre tous les hommes au ciel. Pourquoi? Parce que, la grâce sanctifiante est inhérente à la nature humaine. Alors, quelle est l'objection qu'on va leur faire? L'objection qu'on va leur faire, mais dis donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix? Réponse du moderniste, ils vont dire, notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour, justement, faire de tous les hommes des enfants de Dieu. Donc, à cause de la mort notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il suffit de croire qu'il est mort pour nous sur la croix, c'est le protestantisme. On est sauvés par la foi seule. Donc à cause de cette foi, on est tous sauvés. Et alors, ça, justement, cet article est à mon avis très important parce qu'il va démolir totalement l'aspect, le protestantisme de Jean-Paul II, de Benoît XVI, de Bergoglio. Non pas que ces idées-là n'existaient pas avant Jean-Paul II, mais elles sont très claires chez Jean-Paul II. Encore plus c'est Benoît XVI. Benoît XVI est vraiment le théologien, si vous voulez, moderne de la naturalisation de l'état de grâce. Ça, c'est toutes les idées de Schilbeck, surtout de Rahner, d'Hans Küng. J'ai entendu parler de tous ces gars-là qui ont fait un dégât énorme dans l'Église. Alors, voyons un petit peu comment saint Thomas d'Aquin va expliquer cela. Donc, on reprend les trois niveaux dont je vous ai parlé, niveau de nature, niveau de grâce, niveau de gloire. Et il va utiliser trois termes différents. Donc, premier degré, le niveau de la nature de l'homme. L'homme est un composé de corps et d'âme, d'accord? Le niveau de la nature, c'est ce qu'on appelle le niveau de la création, dit saint Thomas. Je vais expliquer. Deuxième niveau, le niveau de la grâce. Bien sûr, la grâce est quelque chose de créé, hein, contrairement à ce qu'on croit. La grâce n'est pas quelque chose d'incréé. La grâce est quelque chose de créé qui se surajoute à une nature déjà existante. Donc saint Thomas va appeler ce deuxième niveau la recréation. Recréation, qui est souvent traduit en français moderne par la renaissance. La renaissance du XIVe siècle, c'était un peu ça, c'est-à-dire que c'était paganisé, mais l'idée était la même. Bon. Troisième degré, degré de la gloire. Et là, le degré de gloire, c'est ce qu'on appelle la ressemblance. Bon, donc vous avez ici le mot ressemblance, et le mot image, il se passe où là-dedans? Quel niveau?
Nature.
Nature. Donc ici, c'est l'image. Le premier niveau, c'est l'image. L'homme a été créé à l'image de Dieu, premier degré, degré de nature de la création, et à la ressemblance de Dieu, qui est partielle dans le niveau de la grâce, parce que par la grâce sanctifiante, on est déjà créé à la ressemblance de Dieu, et définitive dans la gloire, par le troisième degré, on a des niveaux de qui est au-dessus de la recréation, ça va la ressemblance avec Dieu. Et donc, Dieu va pouvoir en quelque sorte sauver tous ceux qui lui ressemblent. Il va pouvoir sauver des gens qui ne veulent pas ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Alors, on va essayer d'expliquer ça avec ces textes qui sont splendides, de saint Thomas d'Aquin, qui sont assez peu connus, c'est dommage. Alors, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. D'accord, je vais vous expliquer. Page 28. Donc, question 93, article 4. L'image de Dieu est-elle en tout homme? Bergoglio répond oui. Saint Thomas d'Aquin répond non. Par le péché, l'homme perd sa ressemblance avec Dieu. Alors l'image de Dieu, attention, bien, je reprends ma phrase. L'image de Dieu au niveau naturel existe pour tous les hommes. D'accord? Pourquoi? Parce que tous les hommes ont l'image de Dieu, de par leur nature humaine, l'existence en eux d'une étincelle divine qui s'appelle l'âme. D'accord? Bon. Donc, l'image de Dieu dans tous les hommes, mais pas la ressemblance, j'ai déjà expliqué. Il faut faire attention aux termes qu'on utilise. Donc, par le péché, l'homme perd sa ressemblance avec Dieu, puisque c'est en vertu de sa nature intellectuelle que l'homme est dit exister à l'image de Dieu. C'est-à-dire l'existence de l'âme intellectuelle rend l'homme à l'image de Dieu. L'existence dans une créature de l'image d'une âme végétative ou d'une âme sensitive ne rend pas cette âme à l'image de Dieu. Ne fait pas que cette âme est créée à l'image de Dieu. Il faut passer au troisième niveau. Rappelez-vous des trois âmes, l'âme végétative, l'âme sensitive, l'âme intellectuelle. Il faut être dans le troisième niveau de l'âme intellectuelle pour pouvoir prétendre être créé à l'image de Dieu. Le trait par lequel il sera le plus à l'image de Dieu sera celui par lequel la nature intellectuelle peut le plus imiter Dieu. Est-ce qu'on peut aimer le bon Dieu avec notre corps? Strictement parlant, non. On a besoin justement que... Le corps peut aimer Dieu à condition d'être contrôlé par l'âme et que l'âme adore en adoration fasse participer le corps à l'adoration qui est due à Dieu. D'accord? On voit ce que dit saint Thomas. Donc, ça c'est une phrase très importante. Puisque c'est en vertu de sa nature intellectuelle que l'homme est dit exister à l'image de Dieu, le trait par lequel il sera le plus à l'image de Dieu sera celui par lequel la nature intellectuelle peut le plus imiter Dieu. Or, la nature intellectuelle imite Dieu surtout lorsque Dieu se connaît et s'aime lui-même. Donc c'est dans la mesure où une âme se rapproche de Dieu qu'elle va augmenter sa ressemblance avec Dieu. Notez que saint Thomas dit bien « par le péché, l'homme perd sa ressemblance avec Dieu ». Il ne dit pas « par le péché, l'homme perd son image », l'image de Dieu en lui, non. N'oubliez pas que avec le péché, même avec le péché, même avec le péché mortel, l'image de Dieu reste dans l'homme. Il y a une dignité de l'homme qui ne peut pas être détruite parce qu'elle est d'ordre naturel, dans la nature même de l'homme. Donc cet homme a dit bien, ce n'est pas le péché, l'homme perd non pas son image avec Dieu, mais sa ressemblance avec Dieu. L'image de Dieu dans l'homme pourra donc se vérifier selon trois degrés. Alors, au début c'est une simple image, c'est le premier degré, ce qu'on appelle le degré de création. D'abord, parce que l'homme a une aptitude naturelle à connaître et à aimer Dieu. Cette aptitude réside dans la nature même de l'âme spirituelle, laquelle est commune à tous les hommes. Tous les hommes ont une âme spirituelle. Tous les hommes ont une âme composée, une âme qui est une substance spirituelle capable d'aimer Dieu et de le servir. Voilà. Aimer Dieu, de connaître Dieu, par plus évidemment, tous les hommes ont une âme spirituelle capable de connaître Dieu et de le posséder. Connaître Dieu, c'est quoi ? La connaissance de Dieu, justement, c'est l'intelligence. Et la possession de Dieu, c'est quoi ? C'est la volonté. D'accord ? C'est la volonté qui va intervenir après être illuminée par l'intelligence pour pouvoir posséder Dieu. Donc, au sommet, qu'est-ce que vous avez ? La foi. Juste sous la foi, l'intelligence. Et encore sous l'intelligence, la volonté. Donc, cette attitude, aptitude à la gloire, à la grâce, réside dans la nature même de l'âme spirituelle, laquelle est commune à tous les hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les hommes ont une aptitude, une possibilité, une puissance à la grâce, une puissance à la gloire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout homme, à cause de sa nature intellectuelle, à cause du fait qu'il a une âme créée à l'image de Dieu, a une possibilité de recevoir la grâce sanctifiante, et une possibilité, un jour, de faire partie du nombre des élus. On appelle une puissance. Une puissance obédientielle à la grâce, on peut dire une puissance à la gloire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui le rend capable de devenir enfant de Dieu, par le baptême, et de posséder Dieu de façon éternelle par la gloire. D'accord ? Donc, c'est ce que dit ici saint Thomas, cette aptitude réside dans la nature même de l'âme spirituelle, laquelle est commune à tous les hommes. Deuxième degré. En ce que l'homme connaît et aime Dieu en acte par habitus, quoique de façon imparfaite, c'est l'image par la conformité par grâce. Bon. Comment ? Pourquoi il dit aimer Dieu ? L'homme connaît Dieu. Est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on peut connaître Dieu en étant en état de péché mortel ? Oui ou non ?
On peut le connaître où ?
On peut connaître. Donc on peut connaître Dieu en étant en état de péché mortel. Est-ce qu'on peut aimer Dieu en étant en état de péché mortel ? Non. Donc encore ici, saint Thomas dit, « En ce que l'homme connaît et aime Dieu en acte », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui rajoute à la connaissance intellectuelle de Dieu, que tout homme peut avoir, même s'il n'est pas en état de péché mortel, même s'il n'est pas en état de grâce, même s'il n'est pas baptisé, il se rajoute quelque chose en acte qui est la conformité de grâce. Donc, par cette habitus, si vous voulez, qui se surajoute à l'âme, de façon imparfaite, Dieu se manifeste à l'homme par la confirmité de grâce. C'est-à-dire que la grâce sanctifiante donne à l'intelligence humaine une vision, si vous voulez, beaucoup plus parfaite des choses. D'accord ? Mais de façon imparfaite. Parce que, ici-bas, sur la terre, en état de grâce, on ne peut pas encore posséder Dieu, puisque pour posséder Dieu, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut actuellement, en tout cas dans le cours actuel des choses, il faut être mort. Personne qui est encore vivante ne peut pas posséder Dieu totalement. Troisième degré, donc le deuxième degré, ça correspond à la recréation. Troisième degré, troisièmement, ce que l'homme connaît, aime Dieu en acte et de façon parfaite, c'est ainsi qu'on rejoint l'image, selon la ressemblance de gloire. À la gloire, est-ce qu'il est possible de perdre cette ressemblance avec Dieu ? Non. Donc c'est une ressemblance parfaite à Dieu. La grâce sanctifiante ici-bas, malheureusement, on peut la perdre. On peut la perdre par le péché, et donc cette grâce sanctifiante est une ressemblance imparfaite à Dieu. C'est pour ça que la grâce est quelque chose de créé, alors que la gloire en tant que telle, c'est un créé. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. C'est pour ça que la gloire divine que nous aurons au ciel, pour les élus, c'est une participation à la vision béatifique de Dieu. Bien sûr, pas au même degré que Dieu, mais quand même, on aura une participation à cette vision béatifique. Voilà ce que dit le psaume 4, verset 7. La lumière de votre face a été imprimée sur nous, Seigneur. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'âme qui a la possibilité, qui devient image de Dieu par l'existence en elle d'une nature. D'une nature intellectuelle, c'est-à-dire d'une âme capable de connaître Dieu. La gauche distingue donc trois sortes d'images : celle de la création, de la recréation et de la ressemblance. Enfin, attention au mot récréation, parce que le sens du mot récréation va être bien changé aujourd'hui. Quand on parle de récréation, ça veut dire une détente. Là, il prend au sens fort du terme. C'est dans le sens de recréation, nouvelle création. D'accord ? La gauche distingue trois sortes d'images. La gauche, c'était les écrits, les grands écrits philosophiques et théologiques des premiers siècles de l'Église. La gauche distingue trois sortes d'images, celle de la création, une aptitude naturelle, celle de la recréation, conformité de grâce, et de la ressemblance, conformité, ressemblance de gloire. La première de ces images se trouve, c'est tous les hommes. Pourquoi ? Parce que tous les hommes ont une nature humaine, et donc ont une âme qui crée l'image de Dieu. La deuxième, chez les justes seulement, ça veut dire les justes, ceux qui ont eu un tas de grâce, et la troisième, simplement, chez les bienheureux. Et donc, en une phrase, saint Thomas est un génie, en quelque sorte, un génie de la synthèse. Avec une phrase comme ça, il y a trois sortes d'images, de la création, la recréation et la ressemblance. La première de ces images se trouve chez tous les hommes, la deuxième chez les justes seulement, la troisième seulement chez les bienheureux. Eh bien, les modernistes d'aujourd'hui ont tout mélangé. Ils ont tout mélangé, ils enseignent maintenant la naturalisation de l'état de grâce. L'état de grâce devient une partie de la nature humaine. Une nature humaine, donc, qui ne peut plus être élevée. Et donc, ça supprime complètement la dimension surnaturelle de l'homme, fruit, si vous voulez, du travail de l'homme, si vous voulez, au niveau surnaturel, pour pouvoir se mettre sous la volonté du bon Dieu. Il n'y a plus besoin de faire ça, puisque, ipso facto, il a cette ressemblance de gloire par l'existence de son âme. Ça, c'est la nouvelle théologie de maintenant de Bergoglio. Avant, ça qu'il faut comprendre, c'est que Ratzinger, Jean-Paul, donc Benoît XVI, croyait ces choses-là. Il enseignait déjà ça. Mais au moins, dans la façon de l'exprimer, il faisait un peu attention à ce qu'il disait. Bergoglio a passé une étape supérieure. Il croit aussi que tous les hommes vont au ciel. Et maintenant, il se met même plus, il s'est même plus, si vous voulez, il ne fait même pas l'effort, même plus l'effort, de catholiciser un petit peu ces phrases. Bon. Chez Benoît XVI, il y avait encore un petit peu de vernis catholique. Le vernis catholique a complètement sauté avec Bergoglio. Il n'y a plus de vernis catholique du tout. Donc c'est l'hérésie pure et simple. Alors, vous voyez que là, donc, il y a trois mots, création, recréation, ressemblance. Bon, création, la nature, recréation, la grâce, et ressemblance, la gloire. Voilà. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Donc, on continue d'expliquer cet article, qui est un article magnifique. Pour ce qui est de certains traits secondaires, l'image de Dieu se trouve dans l'homme d'une façon qui ne se vérifie pas dans la femme. Pourquoi ? Parce que l'homme et la femme sont différents. D'accord ? Attention, il faut bien comprendre, j'ai déjà expliqué la dernière fois, quand on lit des phrases comme ça, dans le monde moderne, il pose des hurlements immédiatement, en disant, oui, saint Thomas est un misogyne, mais pas du tout. Vous allez voir comment il explique la chose. En effet, l'homme est principe et fin de la femme, comme Dieu est principe et fin de toute la création. Ainsi, une fois, le saint Paul lui dit, l'homme est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Il montra la raison par laquelle il avait dit cela en ajoutant, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est-à-dire, pour comprendre cette phrase, qu'est-ce qu'il faut, la vertu qu'il faut ? Il faut la vertu d'humilité. Bon. Mais dans le texte de saint Paul, qui ont fait couler beaucoup d'encre, parce que Dieu sait sur la cuisse de saint Paul est un misogyne. Bon. Dans ces textes de saint Paul, l'homme est mis à sa place et la femme est aussi mise à sa place. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme et la femme aient la même place. L'exemple classique que je vous ai déjà souvent donné, c'est même dans un jardin, le jardinier plante des fleurs à des endroits différents. Il met les roses avec les roses, il met les violettes avec les violettes, et les myosotis avec les myosotis. Bon. Chaque plante doit atteindre sa perfection propre. La perfection d'une rose n'est pas la perfection d'une violette. La perfection d'un myosotis n'est pas la perfection d'une violette ou d'une rose. D'accord ? Donc qu'est-ce que le bon Dieu demande à une rose, allégoriquement ? La rose, le bon Dieu va demander à la rose d'atteindre la perfection qu'il a voulu pour une rose. Qu'est-ce qu'il va demander à une violette ? D'atteindre la perfection qu'il a voulu pour une violette. Et qu'est-ce qu'il va demander au myosotis ? D'atteindre la perfection qu'il a voulu pour un myosotis. C'est pareil pour les âmes. Donc, avec le monde moderne, ils ont énormément de mal à comprendre ça. Pourquoi ? Parce que les gens vont dire, il y a des différences, il ne faut pas de différence, il faut que tout le monde soit rose. Mais non, parce que si toutes les fleurs du jardin sont des roses de la même couleur, le jardin perd de sa beauté. Au contraire, la beauté du jardin dépend de quoi ? Dépend de l'assemblement des couleurs, l'arrangement des couleurs et les différentes variétés de fleurs. C'est pour ça que le monde moderne, il a mis des fleurs diverses et variées dans le monde. Mais c'est la même chose sur le plan surnaturel. D'accord ? Donc, on ne peut pas dire qu'une rose est supérieure à une violette ou qu'une violette est supérieure à un myosotis. Pourquoi ? Parce que la rose est une fleur, la violette est une fleur, le myosotis est une fleur. Ce sont trois fleurs. Trois fleurs qui sont parfaites dans leur genre. Donc la femme est parfaite dans son genre, l'homme est parfait dans son genre, l'enfant est parfait dans son genre. Je viens dans son genre. Alors qu'est-ce que fait la révolution ? La révolution, le mot même révolution, mais veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire révolution ? Révolution, ça veut dire désordre. Désordre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on détruit l'ordre voulu par Dieu. Bon. À partir du moment où l'homme cherchait à atteindre sa perfection propre, que la femme cherchait à atteindre sa perfection propre, qui n'est pas celle de l'homme, les choses étaient en ordre. D'accord ? Chacun, les cochons étaient bien gardés, comme on dit. Chacun s'acclame, sa place, chacun fait son travail. Et les choses tenaient la route. Pour ça que la famille, par exemple, au Moyen-Âge, avait une force beaucoup plus grande que la nôtre, pour, justement parce qu'à ce moment-là, l'homme était à sa place, la femme était à sa place, et la femme ne cherchait pas à jalouser l'homme, et l'homme ne cherchait pas à jalouser la femme. L'homme savait qu'il était homme et donc il avait une perfection atteinte qui était différente de celle de la femme. La femme était en femme, savait qu'elle avait une perfection atteinte qui n'était pas celle de l'homme. Chacun faisait son travail. Donc qu'est-ce qui va se passer avec le système révolutionnaire ? C'est de rendre les gens jaloux les uns des autres. Donc la femme va devenir jalouse de l'homme, l'homme va devenir jalouse de la femme. Bon. Notre manière d'expliquer tout simple, c'est en matière politique. Bon, en matière économique, par exemple. Bon, dans une corporation, au Moyen-Âge, il y avait des degrés. Il y avait des degrés qui étaient variés. Il y avait en haut, il y avait l'évêque protecteur. Après, il y avait toute la corporation, la partie de la corporation supérieure qui était composée des maîtres, ceux qui avaient fait leur tour de France, qui avaient déjà acquis toute l'expérience et qui enseignaient aux autres. Après, il y avait les différents degrés. De différents degrés d'honneur dans la corporation. En partant du plus bas, le petit apprenti qui est rentré à 12 ans dans un atelier pour commencer à prendre le boulot. Bon. Chacun était à sa place. D'accord ? Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre. À partir du moment où le système politique est vertical, il y a l'ordre, tout de suite. Il y a l'autorité en haut, qui vient d'en haut, et certainement pas d'en bas. Qu'est-ce que fait la révolution ? La révolution détruit le système vertical et transforme ça en système horizontal. Et donc, qu'est-ce qui va immédiatement introduire la révolution ? La révolution va introduire un système horizontal, c'est-à-dire tous les simples ouvriers qui vont être réunis ensemble dans une certaine forme de corporation. Au-dessus, il y aura la corporation, par exemple, des contremaîtres. Et au-dessus, encore, la corporation des patrons. Et donc, qu'est-ce que va faire la révolution ? Elle va introduire la haine. La haine de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les ouvriers vont jalouser les contremaîtres, les contremaîtres vont jalouser les patrons. Chacun est un jaloux du succès de l'autre, du salaire de l'autre. C'est comme ça qu'on met la révolution dans une maison. Mais c'est exactement la même chose sur le plan surnaturel. D'accord ? Donc, à partir du moment où une femme comprend qu'elle est femme et qu'elle doit se sanctifier en tant que femme, et que donc Dieu va lui donner, est obligé de lui donner tous les éléments dont on a besoin de grâce et de nature pour pouvoir remplir son boulot, elle sera heureuse dans son travail. Elle trouvera sa perfection en tout simplement en agissant comme femme. L'homme comprendra qu'il doit atteindre sa perfection qui n'est pas celle de la femme, qui est une perfection différente, et donc Dieu est obligé de lui donner tous les moyens de grâce et de nature pour qu'il puisse remplir son boulot correctement. Et ça, dans le monde moderne, c'est complètement détruit. On n'arrive même plus à expliquer des choses comme ça. Là encore, j'ai devant moi des catholiques, si vous voulez, des catholiques de tradition qui connaissent un peu leur catéchisme. Mais quand on essaie d'expliquer ces choses-là aux gens modernes, et même parfois dans la tradition, moi j'ai plusieurs fois, pas qu'une fois, je pense à un cas très précis, je ne peux pas vous donner le nom, mais un cas très très précis d'une personne qui, dans la tradition catholique, qui me disait, monsieur l'abbé, le simple fait qu'il y ait des différences entre nous, c'est déjà une injustice. Non. Dans le monde moderne, qui dit différence dit injustice. Donc, qu'est-ce qu'on fait le monde moderne pour supprimer les injustices ? On met tout le monde au même niveau. En général, comment fait la révolution ? On coupe le cou à tout le monde, ceux qui dépassent. Comme ça, évidemment, tout le monde est au même niveau, puis tout le monde est mort. D'accord ? Au contraire, dans la société catholique, il y a des différences entre les gens, chacun apporte sa pierre qui est différente, et les choses se font. Pour un autre exemple qu'on prend, c'est par exemple, un exemple classique, c'est la construction des cathédrales. Bon. Chaque maçon, chaque tailleur de pierre, a une pierre définie à tailler. Bon. Celui qui taille une pierre pour les fondements de l'édifice, bon, il est payé pour son travail. Il doit faire une pierre qui est solide, pour être passée dans les fondements. Elle ne va pas être vue, donc elle n'a pas besoin d'être très bien taillée, mais il faut qu'elle soit très solide. Bon. Au contraire, le tailleur de pierre qui est chargé de faire une magnifique statue colonne d'un prophète de l'Ancien Testament, il va prendre une pierre déjà un peu différente, il sera beaucoup moins dur pour pouvoir la tailler. D'accord ? Il va lui donner une forme extraordinaire, il va passer beaucoup plus de temps dessus, il va être payé en fonction de son travail. Donc celui qui fabrique des statues magnifiques de prophètes de l'Ancien Testament a un art et une science qui bien sûr supérieur à l'autre. Mais chacun a son boulot. Imaginez que celui qui met les pierres dans le fond, la fondation de l'édifice veut faire exactement le même travail que celui qui taille des statues du prophète de l'Ancien Testament. Ils veulent être identiques. Si vous mettez les pierres des prophètes de l'Ancien Testament, qui font les prophètes de l'Ancien Testament dans les fondations, alors que la cathédrale va s'écrouler, parce que justement les pierres sont pas assez dures. D'accord ? Et ça, c'est très important. Et je pense qu'au niveau de l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et apprendre à nos enfants que l'égalité n'existe pas dans ce monde, sauf au niveau naturel. Encore une fois, c'est le premier degré. L'aptitude naturelle à connaître et aimer Dieu, elle existe à cause de l'existence de l'âme. Tous les hommes ont une âme. De ce côté-là, tous les hommes sont identiques. Mais dès qu'on passe au deuxième degré, conformité de grâce, ou au troisième degré, conformité de gloire, ressemblance de gloire, à ce moment-là, on est tous différents. D'accord ? Donc là, saint Thomas explique bien les choses. Donc tous les hommes ont la première de ces images, l'aptitude naturelle. Les justes ont la conformité de grâce et les bienheureux seuls ont la conformité de gloire. Encore une fois, le monde moderne pousse des cris de putois dès qu'on explique ces choses-là en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, vous êtes un réactionnaire parce que justement vous voulez différencier les gens. Ben oui. Et les gens, ce que les révolutionnaires ne comprennent pas, c'est qu'en détruisant justement ce que l'Église a toujours enseigné sur ce sujet, on détruit complètement l'édifice humain et puis ben, du tout, on tombe dans l'esclavage. On voit très bien avec le féminisme actuel. Avec le féminisme actuel, où la femme veut absolument être égale à l'homme, eh bien, quelle est la conséquence pratique, si vous voulez, de l'égalité entre homme et femme, la femme retombe dans l'esclavage. La femme retombe dans l'esclavage dans lequel elle était avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le monde moderne, il faut voir ça, la femme est considérée simplement comme un pur objet, un point, c'est tout. Tout simplement parce qu'elle ne veut plus être à la place que le monde est prévu pour elle. Et alors, autre paragraphe, dans le troisième paragraphe, ou un, deux, trois, quatrième paragraphe de l'article 4, page 28, si l'on trouve chez l'homme une ressemblance de Dieu par mode d'image, c'est au niveau de l'âme spirituelle. Évidemment, on n'est pas créé à l'image de Dieu par notre corps. Hein. Dans ces autres parties, on la trouve par mode de vestige. Donc, l'image de Dieu demeure toujours dans l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vient faire cette histoire de vestige? Bon, c'est-à-dire que la présence de Dieu dans une créature dépend du caractère intellectuel de cette nature. Donc, dans une âme qui vit à l'état de grâce, Dieu peut être présent dans cette âme par ressemblance. Dans un homme qui vit pas en état de grâce, un homme qui n'est pas baptisé par exemple, et qui n'est pas en état de grâce, eh bien l'homme, Dieu va exister dans cette nature par image. Et dans un chat ou un chien, est-ce que Dieu existe dans un chat ou un chien? Oui, parce que c'est lui qui a créé les chats et les chiens. Mais c'est évident que la vie de Dieu, si vous voulez, dans un chat et un chien, n'a rien à voir avec la vie de Dieu dans un homme. Encore moins la vie de Dieu dans un ange. Donc, dans un chat ou dans un chien, la présence de Dieu va être ce que saint Thomas appelle un vestige. Bon, et plus on descend, plus il va y avoir... On aura du mal à voir la présence de Dieu dans ces créatures. Donc, tout à fait, on parle de la trace, que saint Thomas appelle la trace, puis la vestige, puis l'image, puis la ressemblance. Il y a quatre niveaux. La trace, pour les êtres purement végétatifs, par exemple une fleur. Une fleur fait penser à Dieu par sa beauté. Bon, une fleur n'a pas d'âme, elle n'a pas d'âme intellectuelle. Au-dessus, vous avez un chat ou un chien, qui vont aussi vous faire penser à Dieu, par leur façon de se comporter, on voit qu'ils ont la vie, ils ont une vie, donc ils ont une âme supplémentaire au-dessus de l'âme végétative, ils ont aussi l'âme sensitive, d'accord ? Au-dessus, il y a l'homme qui, par sa nature, a déjà été créé à l'image de Dieu. Au-dessus, il y a encore l'homme qui est baptisé, qui reçoit une grâce, quelque chose de supplémentaire qui s'appelle la grâce. Et encore au-dessus, il y a l'homme dans sa gloire au paradis, d'accord ? Donc en fait, vous voyez bien, on trouve... qu'il y a différents. Tout est hiérarchisé. On voit ça dans la créature de Dieu, ça qui est extraordinaire. Dans la créature de Dieu, tout est absolument hiérarchisé. Alors, voyons ces paragraphes. Si l'on trouve, donc des paragraphes avant la fin de la page 28, si l'on trouve chez l'homme une ressemblance de Dieu par mode d'image, c'est au niveau de l'âme spirituelle. J'ai expliqué. Dans ces autres parties, on la trouve par mode de vestige. L'image de Dieu demeure toujours dans l'homme. Pourquoi ? Parce qu'un homme ne peut jamais se retrouver sans âme. Un homme sans âme, ça n'existe pas. Quelqu'un, par définition, quelqu'un qui est homme a une âme. Que cette image, selon saint Augustin, soit usée comme voilée au point d'exister à peine, comme chez ceux qui n'ont pas l'usage de la raison, qu'elle soit obscure et déformée comme chez les pécheurs, qu'elle soit claire et belle comme chez les justes. Oui, c'est magnifique façon d'expliquer des saints. Hein. Donc il y a donc trois sortes d'images de Dieu dans l'homme. Et celle de la nature, celle de la grâce et celle de la gloire. Eh bien, la deuxième, à partir du deuxième niveau, l'image de Dieu de la grâce et celle qui vient de la gloire, on appelle ça la ressemblance. D'accord ? Donc, en fait, la nature, c'est l'image de Dieu, la grâce, c'est la ressemblance de Dieu, et la gloire, c'est la ressemblance dans sa perfection. D'accord ? Alors, j'aime beaucoup moi la façon d'expliquer cet homme de saint Augustin qui dit bien que chez le pécheur, l'image de Dieu est obscure et déformée, mais elle est toujours là. Quand on parle aux enfants, généralement on explique avec l'histoire du miroir. L'histoire du miroir, c'est quoi ? Bon, un miroir qui est supposé réfléchir. Bon, si une âme est en état de grâce, ou en état de gloire, si vous voulez, l'âme va se regarder dans le miroir, si elle est en état de grâce, elle va voir Dieu dans le miroir. Parce que l'âme devient l'habitation de Dieu. Bon. Si au contraire, l'âme n'est pas baptisée, elle va se regarder dans un miroir, elle ne va pas voir Dieu dans le miroir parce que l'image sera déjà toute déformée. Pourquoi ? Parce qu'il manque quelque chose. Bon. On explique aussi la même chose avec le péché. Parce qu'une âme est en état de grâce, l'image qui se reflète sur le miroir est parfaite. Bon. Ou au moins proche de la perfection. La perfection, c'est au ciel, pour la gloire. Mais déjà, par la grâce, qui est une participation du ciel, ici-bas, déjà, quelqu'un qui est en état de grâce se voit de façon claire, voit Dieu de façon claire dans l'image, dans le miroir de son âme. Si on passe, un catholique qui perd l'état de grâce, qui commet un péché véniel par exemple, l'image est toujours là, mais c'est comme s'il y avait un petit peu de la buée sur le visage, sur le miroir. L'image est là, on voit que le miroir reflète toujours quelque chose, mais l'image reflétée n'est pas claire. Et lorsqu'on commet un péché mortel, on ne voit plus rien parce que le miroir est brisé. Le miroir brisé ne reflète plus rien du tout. D'accord ? Donc, la béatitude de l'homme, dernier paragraphe de la page 28, c'est d'avancer un peu quand même. La béatitude de l'homme consiste dans la vision de l'essence divine. C'est-à-dire, l'homme sera bienheureux, l'homme ne pourra trouver sa gloire et sa joie de façon parfaite que dans l'essence divine, au ciel. Nul homme ne peut par sa volonté se détourner de la béatitude, car c'est un mouvement naturel et de façon nécessaire que l'homme veut la béatitude et fuit le malheur. L'homme, naturellement, cherche les choses qui lui sont profitables. Aussi, nul homme, voyant Dieu dans son essence, ne peut par sa volonté se détourner de Dieu, ce qui est péché. Si l'homme voyait Dieu dans son essence ici-bas, personne ne commettrait un péché. Mais Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse voir l'essence de Dieu ici-bas. Justement pour laisser l'homme libre. Ce que veut dire saint Thomas, c'est que si l'homme voyait Dieu dans son essence, il n'aurait plus la liberté de ses actions, il serait incapable de pécher. Donc, l'ange au ciel, le bienheureux au ciel, voit Dieu dans son essence, déjà, par la participation à la grâce, à la vision béatifique, mais par cette essence, il ne peut plus la perdre. C'est-à-dire, la gloire d'un ange ne peut plus être détruite. Pourquoi ? Tout simplement, j'ai déjà expliqué sur le plan philosophique, tout simplement parce que Dieu n'est pas, au ciel n'est plus dans le temps, mais dans l'éternité. À partir du moment où on meurt, on quitte le temps, on passe dans l'éternité. Qui dit éternité dit absence de temps. Donc, le temps est nécessaire pour qu'il y ait changement. Qui dit absence de temps dit donc impossibilité de changement. Donc l'état d'une âme au ciel ne peut plus changer. Donc quelqu'un qui rentre au ciel dans l'état de ressemblance parfaite avec Dieu par la gloire, va garder cette gloire pour toute l'éternité. Au contraire, quelqu'un qui perd la ressemblance et l'image de la ressemblance d'avec Dieu, si vous voulez, par le péché, malheureusement, va garder ce miroir brisé dans lequel Dieu ne peut plus se refléter pendant toute l'éternité en enfer. D'accord ? C'est pourquoi tous ceux qui voient Dieu dans son essence sont fixés dans l'amour de Dieu de telle façon qu'ils ne peuvent plus jamais pécher. Puisque Dieu, Adam, a péché, il est manifeste qu'il ne voyait pas Dieu dans son essence. Parce que si Adam avait vu Dieu dans son essence, il n'aurait jamais péché. Donc, pour en résumer, celui qui voit Dieu dans son essence ne peut pas pécher, c'est la grâce, c'est la gloire au ciel. Or, Adam a péché, donc Adam ne voyait pas Dieu dans son essence. D'accord ? C'est la même chose pour les anges. Donc, certainement, on se pose la question aussi de savoir est-ce que les anges ont été créés, si vous voulez, dans un état de gloire ? Et la réponse est non. Ils n'ont pas été créés tout de suite dans la gloire, parce que qui dit gloire dit impossibilité de changer. Or, les anges ont été placés devant une épreuve, et un tiers d'entre eux ont raté l'épreuve. Donc il y avait des changements qui sont arrivés dans l'ange. Puisqu'il y avait des changements, c'est qu'ils n'étaient pas encore dans la gloire. Et c'est après leur épreuve, pour ceux qui ont passé l'épreuve, le tiers des anges a été jeté hors du ciel, il restait deux tiers qui ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ, qui eux se sont retrouvés à ce moment-là, enracinés dans une gloire qu'ils ne pouvaient plus perdre. L'homme est donc, page 29, en haut, empêché dans son état présent de considérer entièrement, lucidement, les effets spirituels, parce qu'il est tiraillé par les objets sensibles qui l'en siègent. Plus l'âme est remplie de choses sensibles et matérielles, moins elle peut voir Dieu, moins elle peut monter vers le bon Dieu. C'est comme, si vous voulez, un poids mort qui tire l'âme vers le bas. Au contraire, plus l'âme est détachée des objets sensibles et matériels, plus elle est légère et à ce moment-là peut monter vers le bon Dieu. Donc, saint Thomas dit aussi, deuxième paragraphe de page 29, la volonté bonne est une volonté ordonnée. La volonté révolutionnaire est une volonté désordonnée. La révolution, c'est quoi ? La révolution, c'est tout simplement l'introduction du désordre qui devient quelque chose d'endémique à l'âme. C'est-à-dire que le désordre est tel que l'âme ne peut plus vivre sans ce désordre. Donc l'homme est retenu de considérer les choses intelligibles par l'accaparement des choses sensibles. Notre âme est comme une tablette où il n'y a rien d'écrit. Il manque une ponctuation là. L'homme est retenu de considérer les choses intelligibles par l'accaparement des choses sensibles. Point virgule. Il manque un point virgule. Sinon, la phrase n'a plus aucun sens. Point virgule. Notre âme est comme une tablette où il n'y a rien d'écrit. Tabula rasa. De même que le premier homme fut établi dans un état de perfection corporelle, afin de pouvoir engendrer aussitôt, de même il fut également établi dans un état parfait quant à l'âme, afin de pouvoir aussitôt instruire et gouverner les autres, tout simplement parce que Adam et Ève ont été créés à l'âge d'adulte. Ils n'ont pas été créés comme enfants. Donc ils n'ont pas, comme bébé, ils n'ont pas eu donc à apprendre les choses ont été données directement dans l'intelligence d'Adam et Ève. C'est ce qu'on appelle le don d'intégrité. D'accord ? De science infuse aussi. C'est l'intégrité joint à la science infuse. Malheureusement, avec le libre arbitre. C'est à cause de l'existence du libre arbitre qu'ils ont tout perdu. Donc, celui qui agit avec une plus grande charité jouira plus parfaitement de Dieu. Attends, je me trompe le paragraphe là. La vertu, où est-ce qu'on en est là ? Je mélange le paragraphe là. Deuxième paragraphe. De même que le premier homme, Adam, fut établi dans un état de perfection corporelle afin de pouvoir engendrer aussitôt, de même il fut également établi dans un état parfait quant à l'âme afin de pouvoir aussi instruire et gouverner les autres, parce qu'encore une fois, il a été créé comme adulte. Troisième paragraphe. La vertu morale parfaite ne supprime pas totalement les passions, elle les règle. Les vertus ont donc un rôle de gouvernement sur les passions. C'est le propre du tempérant de convoiter ce qu'il faut. Et comme il le faut, cela est clair pour la pénitence, qui est une douleur du péché commis, et pour la miséricorde, qui est une douleur de la misère d'autrui. Des ponctuations, là. Parce que j'ai fait du copie pour coller pour préparer ces cours. Donc là, il y a encore un point virgule ou un point qui manque. Donc la pénitence est une douleur du péché commis, la miséricorde une douleur de la misère d'autrui. Hein. Miséricorde, c'est un mot splendide, l'étymologie très belle. Misère, corps, d'arrêt. Misère, c'est la douleur, corps, le cœur, d'arrêt donné. Donc le miséricordieux, c'est celui qui a un cœur qui est donné à la misère des gens. Il y a un cœur qui s'attendrit devant la misère de l'autre. Donc, celui qui agit avec une plus grande charité jouira plus parfaitement de Dieu, parce que le degré de vie dans l'âme dépend du degré de charité. La charité, c'est la vie divine de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'âme. Le caractère méritoire se trouve plus important après le péché, en raison de la faiblesse humaine. En effet, une œuvre petite dépasse le pouvoir de celui qui l'a accompli avec difficulté, plus qu'une œuvre importante dépasse le pouvoir de celui qui agit sans difficulté. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui au fond du gouffre, si vous voulez, pour faire des toutes petites choses, il a besoin d'une aide supplémentaire de Dieu, qui est bien plus forte que l'aide que va avoir, dont va avoir besoin quelqu'un qui est déjà extrêmement doué naturellement ou surnaturellement. La désobéissance envers l'homme de ce qui doit lui être soumis est une suite et un châtiment de sa propre désobéissance envers Dieu. C'est-à-dire, par sa désobéissance envers Dieu, Adam et Ève vont introduire dans le monde la révolte. D'accord ? La révolte. Et on le voit très bien dans le monde moderne, au niveau de l'éducation des enfants, par les écoles modernes, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Ils cherchent à introduire dans l'âme des enfants une espèce de mépris pour le passé du pays dans lequel ils vivent. C'est quelque chose de très important à comprendre. La révolution travaille sur les âmes des enfants pour leur faire mépriser la famille même qui leur a donné la vie. Donc, mépris des parents et aussi mépris de tout ce qu'ils ont reçu, par l'intermédiaire du pays dans lequel ils sont nés. On voit très bien le monde moderne. Dans le moderne actuellement, en France par exemple, il n'y a que mépris pour le passé glorieux de la France. Vous voyez ? Et la révolution, c'est ça. La révolution, c'est quelque chose qui va faire rentrer dans l'âme des gens le mépris pour tout le passé. Oh, le passé, c'est les fondations. En méprisant le passé, on détruit les fondations, l'édifice et tout s'écroule. C'est ce qu'ils veulent. C'est pour cela, ce que dit saint Thomas, dans l'état d'innocence d'Adam et Ève, avant la désobéissance du péché originel, rien ne lui résistait. De ce qui, par nature, devait lui être soumis. Adam et Ève étaient maîtres de la création. La nature des animaux n'a pas été changée par le péché de l'homme, au point que ceux qui, maintenant, par nature, mangent la chair d'autres animaux, comme les lions ou les faucons, eussent alors été herbivores. Bon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Que le bon Dieu a voulu déjà une certaine dépendance. Encore une fois, dans la création que Dieu a faite, les différents animaux, il y avait une hiérarchie. Bon, il y avait une hiérarchie qui était voulue par Dieu. Et l'homme, voulant devenir Dieu, va prendre sur lui de détruire cette hiérarchie pour pouvoir prouver qu'il est lui-même devenu Dieu. Et là, il y a une phrase très importante de saint Thomas d'Aquin. Il ne faut pas oublier, ça je l'ai mis en gras, l'ordre semble consister surtout dans l'inégalité. Et quand une société est ordonnée, elle est formée d'individus disparates, d'individus différents. Dès que vous voulez une espèce d'égalité, l'égalité entraîne toujours immédiatement la suppression de la liberté. Si au contraire vous introduisez la liberté dans le cœur des hommes, immédiatement la liberté va entraîner quoi ? L'inégalité. Parce que chacun va utiliser sa liberté de façon plus ou moins efficace, et donc les gens vont devenir inégaux. C'est pour ça que les deux mots, égalité et liberté, sont complètement contradictoires. Et en fait, dans la République française actuelle, c'est très clair, ils veulent que tous les hommes soient égaux, et comme ils savent très bien que la liberté détruit l'égalité, donc ils détruisent la liberté. On arrive à un monde où il n'y a plus aucune liberté. Cependant, il peut y avoir un plus grand amour entre les êtres inégaux qu'entre les êtres égaux. Et que si tous les hommes étaient identiques, la notion de charité entre les hommes disparaîtrait pratiquement. Pourquoi ? Parce que tout le monde serait égal à tout le monde. Non, c'est pour ça que le bon Dieu a voulu des choses différentes. Il a voulu par exemple, ce qu'explique saint Thomas, il a voulu dans la terre, sur la terre des hommes qui ont une certaine abondance de biens, il a permis aussi qu'il y ait des pauvres. Mais il a donné l'abondance à certaines personnes pour que ces gens utilisent les biens qu'ils ont abondamment pour pouvoir aider les pauvres. Vous voyez ? N'oubliez pas que Dieu est capable d'utiliser un mal pour obtenir un bien. L'exemple classique dans saint Thomas, que j'ai cité souvent, c'est l'exemple des persécuteurs des débuts du siècle de l'histoire de l'Église. Il explique bien, c'est pas eu les persécuteurs, mais il n'y a pas eu de martyrs. D'accord ? Donc, il ne peut y avoir Il peut y avoir un plus grand amour entre des êtres inégaux qu'entre des êtres égaux. Donc, il n'est pas contre la dignité de l'état d'innocence que l'homme soit et dominé, que l'homme est dominé sur l'homme. Ça veut dire que Dieu a créé les hommes inégaux. Et donc, déjà dans la nature même de l'homme, il y a des gens qui sont en charge, des gens qui sont sous ceux qui sont en charge. Donc, il n'est pas contre la dignité de l'état d'innocence que l'homme est dominé sur l'homme. La communauté de possession est une occasion de discorde, dit Aristote. Bon. Après, donc, je vais un peu vite, ça c'est relativement simple. Dans l'état d'innocence, les volontés humaines auraient été si bien ordonnées que les hommes auraient usé en commun, sans danger de discorde, sur les attributions de chacun des biens soumis à leur maîtrise. Pourquoi ? Parce que dans l'état d'innocence, les gens étaient tous différents, mais les gens ne jalousaient pas le voisin à cause de ces différences. Dans l'état de rébellion, l'état dans lequel nous sommes, à partir du moment où on est différent, on jalouse immédiatement celui qui est au-dessus de nous. De même que la diversité des degrés d'être appartient à la perfection de l'univers, de même la diversité des sexes concourt à la perfection de la nature humaine. C'est-à-dire, de la même façon que le bon Dieu a voulu dans sa création des objets différents, des créatures différentes et variées, ce qui fait la bonté de la direction de la nature, voulue par le bon Dieu, la création du bon Dieu, de la même façon, si vous voulez, il a voulu des différences entre, ici il parle de différences, parce que c'est différence entre les sexes, c'est-à-dire différence entre l'homme et la femme, parce que chacun amène quelque chose que l'autre ne peut pas amener. La diversité des sexes concourt donc à la perfection de la nature humaine. Si une créature rationnelle est confirmée en justice, cela vient de ce qu'elle devient bienheureuse par la claire vision de Dieu. Confirmée en justice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est dans un état de justice, qu'on ne peut plus perdre. Car lorsqu'on voit Dieu, on ne peut pas ne pas se fixer sur lui, étant donné qu'il est l'essence même de la bonté dont nul ne peut se détourner, puisque rien n'est désiré et aimé si ce n'est sous la raison de bien. C'est-à-dire que quand on voit Dieu dans son essence, on ne peut qu'une seule chose, c'est vouloir le suivre. Donc on ne peut pas voir Dieu dans son essence ici-bas, parce que Dieu a voulu laisser l'homme libre. Si Dieu, si l'essence de Dieu nous apparaissait déjà ici-bas, eh bien, il n'y aurait plus de liberté. On ne pourrait plus accepter ou refuser Dieu, on serait tous obligés d'accepter, puisque à ce moment-là, il n'y a plus de choix. D'accord ? Lorsqu'on voit Dieu, on ne peut pas ne pas se fixer sur lui, donc étant donné qu'il est l'essence même de la bonté dont nul ne peut se détourner, puisque rien n'est désiré et aimé si ce n'est sous la raison de bien. Je dis cela, dit saint Thomas, selon la loi commune, car il peut en arriver autrement par un privilège spécial, comme nous le voyons de la très sainte Vierge Marie. Notre âme par nature est comme une tablette rase où il n'y a rien d'écrit. Et donc, c'est pour ça que c'est très très important. Il faut comprendre que lorsque l'âme de votre bébé, une personne qui a un nouveau bébé, est baptisée, c'est une tablette qui est vide. Il faut comprendre si Dieu commence à écrire des choses. Mais une fois que les choses sont écrites, elles restent gravées dans le marbre. D'accord ? Alors là, avant d'aborder l'article 7, donc on voit déjà. Il y a des. Petite note de saint Thomas d'Aquin qui est très intéressante justement sur le plan politique. Donc saint Thomas va essayer de répondre à la question de savoir dans les systèmes politiques quels sont les meilleurs systèmes. Donc il va déterminer, si vous voulez, à l'époque surtout, maintenant c'est un peu perdu parce que les gens ont une bête comme leur pied, mais dans saint Thomas, si vous voulez, il y avait trois grands systèmes politiques. Il y avait le gouvernement d'un seul, ça c'est le gouvernement monarchique, d'accord ? Le gouvernement des meilleurs, en principe, hein, c'est pour ça. Comment appelle-t-on ce système ? Quel est le système des gouvernements des meilleurs ? Ce qu'on appelle les gouvernements aristocratiques. L'aristocratie, c'est ça. D'accord ? Gouvernement aristocratique. Et enfin, troisième chose, le gouvernement du nombre. qu'on appelle la démocratique. Démocratie. Et rappelez-vous que la démocratie n'est pas le gouvernement du peuple, mais le gouvernement des membres. Hein. À partir du moment où il peut y avoir stabilité ici, et dans certaines mesures ici, mais absolument plus de stabilité dès qu'on passe au gouvernement du peuple. C'est pour ça que saint Thomas va dire le meilleur gouvernement, celui d'un seul. En fait, après, dans d'autres parties de la Somme, on verra ça plus tard, il va nuancer son opinion pour bien montrer qu'en fait, le système politique idéal, dit-il, c'est un système qui mélange les trois choses. C'est-à-dire à la fois monarchique dans certains domaines, aristocratique dans d'autres, et démocratique dans d'autres. Et on voit très bien, par exemple, le gouvernement du Moyen-Âge, il y avait les trois choses. Il y avait le roi, gouvernement monarchique. Il y avait autour, en principe autour du roi, un système d'aristocratie, si vous voulez. La véritable aristocratie, après, c'était complètement déformé à la fin du Moyen-Âge, malheureusement, avec la Renaissance. Mais la véritable aristocratie, c'était quoi?
C'est
l'aristocratie de l'honneur. C'est-à-dire, le soldat qui s'était couvert de gloire dans un champ de bataille, il avait un honneur spécial qu'avaient pas les autres à cause de ses actes de valeur. Donc, le roi, pour remercier les grands faits d'armes d'une telle personne, va anoblir cette famille-là, par exemple, qui va devenir aristocratique. La véritable noblesse, c'est l'aristocratie. Et qui dit aristocratie, dit quoi? Plus de devoirs, pas plus de droits. Et c'est quand les aristocrates, donc la noblesse, n'a vu que leurs droits et oublié leurs devoirs, que la révolution est arrivée. Et enfin, un gouvernement peut très bien, dans certains cas très particuliers, accepter un système démocratique. Par exemple, il y a toujours eu, par exemple, au niveau de, je ne sais pas moi, l'élection, par exemple, d'un maire dans un village, il peut très bien avoir une élection de type démocratique. Pourquoi? Parce que tout le monde se connaît là-dedans. Dans un village, il y a un village de 2000 personnes qui va devenir maire du village, qui va représenter le village. Bon, tout le monde se connaît, là, il peut y avoir une véritable démocratie. Un homme peut effectivement faire la différence parce que tout le monde se connaît. Mais ce qui n'est plus le cas du tout dès que vous montez à l'échelon d'une ville plus importante. D'accord? Donc, saint Thomas dit bien, le meilleur gouvernement est donc celui d'un seul, c'est-à-dire le gouvernement monarchique. La raison en est que le gouvernement n'est rien d'autre que la conduite des gouvernés vers une fin qui est un bien. Donc, le rôle du gouvernement, c'est de permettre, le rôle du gouvernant, donc du roi ici, c'est de permettre aux gens qu'il dirige, les gens qui sont sous lui, d'atteindre la fin pour laquelle ils ont été créés. Donc, dans l'état, dans la fonction du roi au Moyen-Âge chrétien, le roi était le lieutenant du Christ, parce qu'il était celui qui devait, justement, permettre aux gens du pays d'atteindre le Christ, à savoir d'atteindre la vie éternelle. D'accord ? La multitude est donc mieux gouvernée par un seul que par plusieurs. La pluralité des chefs fait obstacle au bien. Ce qu'il faut donc, c'est un chef unique, dit saint Thomas. Car certaines créatures, selon leur nature, agissent par elles-mêmes, comme ayant la maîtrise de leurs actes, et celles-là sont gouvernées par Dieu non seulement en ce qu'elles les meut par une impulsion intérieure, mais aussi en ce qu'il les conduit au bien et les détourne du mal par des préceptes et des défenses, par des récompenses et des peines. Donc Dieu gouverne les êtres de telle manière que certains d'entre eux puissent être en gouvernant cause de la bonté chez les autres. Donc dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, plus quelqu'un est élevé dans l'hiérarchie des privilèges dans un état, plus il a de responsabilités. Et donc quelqu'un, un roi, celui qui passe son jugement devant Dieu, le bon Dieu va être beaucoup plus exigeant avec un roi qui passe un jugement qu'avec quelqu'un de la plèbe qui va passer un jugement qui a beaucoup moins de responsabilités. Vous voyez? Et tout ça était ordonné au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, l'esprit de la révolution n'était pas encore passé. Mais la révolution n'était pas encore passée, et donc il était évident pour eux que le meilleur gouvernement, c'était le gouvernement d'un seul. Donc le rôle du roi, c'était justement d'amener les gens vers le bon Dieu. Et c'est quand les rois ont commencé à perdre le sens de leur responsabilité devant Dieu, ils sont lieutenants du Christ, c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que l'esprit de la révolution a pu commencer à percer dans le politique. Et on voit très bien, après, c'est à la fin du Moyen-Âge. Fin du Moyen-Âge, quelle est la fin du Moyen-Âge? C'est le XIIIe siècle, la fin du Moyen-Âge. Fin du XIIIe siècle, 1274, on dit. C'est la mort de saint Thomas, la mort de saint Bonaventure. Donc, 1274, qu'est-ce qui arrive immédiatement après? C'est la Renaissance. Et en essence, elle a préparé l'arrivée du protestantisme, va préparer l'arrivée de la franc-maçonnerie, va préparer l'arrivée de toutes les révolutions modernes, la révolution de 789. La révolution de 789, c'est quoi? C'est tout simplement la révolution contre Dieu pour enlever dans l'homme l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, Dieu gouverne donc, c'est la phrase que j'ai mise en caractère fort, là, en caractère gras. Dieu gouverne les êtres de telle manière que certains d'entre eux puissent être en gouvernant en cause de la bonté des autres. Donc, on reviendra là-dessus parce que dans d'autres endroits de la Somme, il en parle. Et c'est un passage assez extraordinaire. Donc, de bien comprendre, si vous voulez, la grandeur, si vous voulez, de la créature de Dieu qui reste à sa place. Dans la mesure où la créature de Dieu est enracinée là où le bon Dieu a voulu qu'elle soit, cette créature peut se développer. Et la révolution, qu'est-ce que fait la révolution? La révolution va déraciner les gens. Le système communisme, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le prolétariat? Un système de Marx. Le prolétariat, c'est des gens sans racines. Sans racines familiales, sans racines économiques, sans racines politiques. Ils sont comme, si vous voulez, une boule qui bouge, et qui n'a pas le temps de s'enraciner nulle part. Et ça, c'est exactement le travail de la révolution. Faire des gens sans racines. Et quelle est la racine naturelle d'un enfant, par exemple? Sa famille. C'est pour ça que le gouvernement moderne en France est très clair. Quel est le but du gouvernement actuel? De déraciner les enfants. Pour déraciner les enfants, il faut les couper de la famille. Les coupant de la famille, on va avoir des enfants qui seront incapables de recevoir quelque chose de la famille, et donc c'est l'État qui va pouvoir tout donner, évidemment tout donner de travers, parce que l'État ne pense absolument pas à ses responsabilités, mais il n'y a qu'une seule chose, c'est l'égalité pour tout le monde. Or l'égalité est impossible, et donc immédiatement on tombe dans un système d'esclavage. Et c'est le monde actuel. Bon, on verra un petit peu, là-dessus je vais arrêter là, parce que j'ai pas encore préparé la question 103, article 7, donc on fera ça. On est quel jour aujourd'hui? On est 26, oui, donc 26. Ce que je vous demande, c'est plus facile pour moi aussi, quand vous avez fait un petit effort pour relire l'article qu'on a expliqué, c'est-à-dire pour le prochain cours, donc dans une semaine, si Dieu veut. Relisez l'article 4 de la question 93, comme ça remet les idées en place. À chaque fois, on peut rajouter une chose supplémentaire. C'est comme une pierre supplémentaire qui est rajoutée pour que le mur puisse se monter. On va finir par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur
Saint Pidis,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit.